Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, nous sommes le samedi 17 mai 2025. Vous écoutez le programme en français de la radio SBS. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous allons passer une heure ensemble. Je m'appelle Marianne Murat et on commence comme tous les samedis avec la rétrospective. Retour aujourd'hui en 2013. Nous allons parler d'un sujet crucial et profondément humain, l'adoption de la loi sur le mariage pour tous en France qui a été adoptée en mai 2013. Ce moment a non seulement changé la législation française mais a également eu un impact significatif sur la société, tant au niveau national qu'international. C'est notre rétrospective et elle est signée François Vantôme.
Pour comprendre l'importance de cette loi, il est essentiel de se plonger dans le contexte de l'époque. Avant 2013, le mariage homosexuel était encore illégal en France et les couples de même sexe n'avaient pas accès aux mêmes droits que leurs homologues hétérosexuels. Cette inégalité a suscité de nombreux débats et de mouvements de lutte pour les droits LGBT qui se sont intensifiés au cours des années 2000. À partir de 2011, des manifestations pour le mariage homosexuel ont commencé à prendre de l'ampleur avec des collectifs comme « Oui au mariage ». En 2012, François Hollande, élu président, avait promis pendant sa campagne d'ouvrir le mariage aux couples de même sexe. Après son élection, le gouvernement a commencé à travailler sur l'élaboration de la loi. Le projet de loi a été présenté en novembre 2012 et les discussions au sein de l'Assemblée nationale ont débuté. Ce fut une période de débats intenses où des opinions divergentes se sont affrontées, tant parmi les élus que dans la société civile. Des manifestations controversées ont eu lieu, certaines en faveur de la loi, d'autres s'y opposant fermement. À l'origine du texte, Christine Taubira, alors ministre de la Justice, qui pendant des mois, jour et nuit, a porté son projet de loi.
Qu'est-ce que le mariage homosexuel va enlever aux couples hétérosexuels ?
Finalement, après plusieurs mois de discussions animées et de votes, la loi sur le mariage pour tous a été adoptée à l'Assemblée nationale le 23 avril 2013, puis au Sénat quelques jours plus tard. Le Conseil constitutionnel a validé la loi sur le mariage pour tous le 17 mai 2013. Cette validation a été une étape essentielle permettant la promulgation de la loi le lendemain, le 18 mai. Ce jour-là, les couples de même sexe ont enfin pu célébrer leur amour sur un pied d'égalité avec tous les autres couples. Cette législation a non seulement permis aux couples homosexuels de se marier, mais elle a également ouvert la voie à une reconnaissance plus large des droits des personnes LGBT. L'adoption par des couples homosexuels en France a été légalisée en même temps que le mariage pour tous. Avant cette loi, l'adoption plénière par des couples de même sexe n'était pas reconnue. Ainsi, à partir de cette date, les couples homosexuels ont pu adopter des enfants sur un pied d'égalité avec les couples hétérosexuels. L'adoption de cette loi a été accueillie avec des cris de joie chez de nombreux défenseurs des droits LGBT, mais également avec des tensions dans certains segments de la population. Le président Hollande s'est ensuite exprimé devant tous les Français.
Je sais que cette loi, qui va ouvrir un droit nouveau sans en enlever un autre à personne, sera dans quelques mois considérée comme une loi de consensus, de réconciliation, de progrès.
Cette législation a non seulement permis aux homosexuels de se marier, mais elle a également ouvert la voie à une reconnaissance plus large des personnes LGBT. Elle a contribué à faire évoluer les mentalités et à favoriser des discussions sur l'égalité et la diversité dans la société française. En 2024, sur 247 000 mariages célébrés en France, 7 000 l'ont été entre personnes de même sexe, soit 2,83% des mariages. Cependant, le chemin vers l'égalité totale est toujours en cours. L'homosexualité est encore réprimée, voire passible de mort, dans de nombreux pays, alors qu'elle est pleinement acceptée dans d'autres. Selon le rapport publié en 2020 par l'Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes, au total, 37 pays membres de l'ONU, sur 193, reconnaissent aujourd'hui le mariage pour tous. En 1989, le Danemark est devenu le tout premier pays à autoriser les unions civiles pour les couples de même sexe. Mais c'est aux Pays-Bas que le mariage pour tous, qui accorde plus de droits qu'une union civile, a été légalisé pour la première fois en avril 2001. En Océanie, mariage homosexuel et adoption sont autorisés en Nouvelle-Zélande en 2013 et en Australie en 2017. L'organisme international qui fait autorité sur le sujet, précise également que parallèlement, 34 États autorisent des formes d'union civile pour les couples gays et lesbiens. Selon ce même rapport, les relations entre personnes de même sexe sont réprimées par la loi dans 69 pays sur 193 et passibles de la peine de mort dans 11 d'entre eux, dont l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis.
Parce que tu crois que tu es ma faiblesse, tu me blesses, me meurtris le geste de l'adieu.
C'est Charles Aznavour, bien sûr, et la chanson « Parce que tu crois », magnifique chanson. Allez, messieurs, dames, on marque une très courte pause. On se retrouve tout de suite avec Marine Grangier du Petit Théâtre de Sydney. Elle nous parle de la pièce « Le prénom ». Elle dirige ce nouveau spectacle qui est présenté du 27 au 31 mai à Sydney.
Écoutez et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SBS Radio. Écoutez en direct ou à la demande. Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play. Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, le plaisir d'avoir Marine Grangier. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Et vous êtes du Petit Théâtre de Sydney qui présente Le Prénom à la fin du mois de mai. C'est au Pacte Theatre à Erskineville, à Sydney. Marine, peut-être parlez-nous de cette pièce. Je sais que vous dirigez cette pièce, vous êtes la metteuse en scène. Racontez-nous ce spectacle basé sur le film du même nom.
Oui, tout à fait. Donc moi je fais partie du Petit Théâtre de Sydney depuis 9 ans, et l'association a 10 ans cette année, donc un gros milestone pour nous, et on s'est dit, bon, pour marquer 10 ans, il faut mettre une pièce en scène que les Français adorent et que les Australiens adoreraient aussi, c'est juste qu'ils la connaissent pas encore. Et en fait, on a choisi Le Prénom, donc que beaucoup de Français doivent connaître pour le film, mais qui est en fait aussi une pièce de théâtre, ce qui n'est pas étonnant parce que quand on connaît le film, c'est un huis clos qui se passe dans une seule pièce, donc très facile à mettre en scène au théâtre. Et voilà, c'est un film culte que beaucoup de Français connaissent et ont adoré et regardent très souvent. Et on a pensé que c'était un super choix pour un public australien parce que ça a vraiment plein d'éléments de la culture française, au sens où voilà, les dîners à la française sont très connus, et bon, on va pas se mentir, les petites disputes entre Français sont aussi voilà, on est connu pour ça, on va dire, et il y a plein de références aussi musicales, cinématographiques, etc., et historiques dans la pièce, donc on pensait que ce serait parfait pour nos deux audiences qui sont les Français et les Australiens.
Et donc, peut-on parler des personnages, les interprètes sur scène, Il y en a combien ?
Alors, donc, c'est une pièce avec cinq personnages, ce qui est aussi pratique parce que en termes de répétition, comme nous sommes tous des amateurs, on a tous notre vie à côté, donc d'avoir cinq acteurs, c'est pratique pour trouver des jours de répétition pratiques pour tout le monde. Et voilà, donc ce sont trois hommes et deux femmes. Il y a deux couples et une dilettante, un homme qui n'est pas en couple dans la pièce, mais on va apprendre très vite pourquoi. Donc voilà, un couple, deux couples parisiens et un cinquième qui est aussi parisien, mais d'origine du Sud, il me semble. Donc des gens qui ont de fortes opinions et qui n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent.
Et donc, j'imagine que le spectacle dure assez long.
On a coupé la pièce. On a coupé parce que donc le film doit faire à peu près 2 heures, je pense. Et en fait, il y a pas mal de... Autant le film a été adapté au sens où tout ne se passe pas uniquement dans la même pièce. C'est-à-dire qu'il y a un peu des flashbacks, on voit aussi la mère qui est un personnage qui n'est pas présent dans la pièce. Donc il y a des personnages qui ont été rajoutés dans le film, qui n'existent pas dans la pièce. Et donc en fait nous on s'est focalisé donc sur le texte de la pièce qui est juste les 5 personnages, mais on a coupé quelques parties histoire que ce soit plus vivant, et parce qu'il y a beaucoup de débats philosophiques et culturels dans cette pièce, donc on a gardé vraiment l'essence de ce débat très à la française, très philosophique, mais on a coupé histoire que ce soit pas trop statique. Donc je pense que la pièce en tout doit faire 1h20.
D'accord. Et que diriez-vous aux gens qui nous écoutent pour qu'ils viennent voir le spectacle ?
Alors, déjà, nous avons une distribution incroyable. Les cinq acteurs qui jouent les cinq personnages sont parfaits pour leur rôle. C'est très, très rare d'avoir un casting aussi simple. Quand on a su quelle pièce on allait faire, j'ai tout de suite su quels acteurs on allait mettre dans quel rôle. Ils sont faits pour ces rôles, donc... Ça colle super bien en termes de distribution. Et puis la pièce est en elle-même hilarante. Enfin, comme n'importe quel Français qui a vu le film ou la pièce peut vous dire, il y a des répliques incroyables. Les personnages sont tous très très différents. Il y a des révélations qui sortent de nulle part. Enfin, c'est sûr qu'on s'ennuie pas, comme dans n'importe quel dîner à la française.
Et quand auront lieu les spectacles et où ?
Alors, donc, c'est au Pact Theatre à Erskineville, juste à côté de la station de train qui est St. Peter's, il me semble. Et ça commence le 27 mai jusqu'au 31. Donc, on fait uniquement 5 représentations. Ouais. Ça va passer très, très vite. Donc voilà, on recommande aux gens de prendre leur place assez tôt, parce que ce qui se passe généralement, c'est que les gens viennent et puis en fait le bouche à oreille fonctionne, et puis d'ici à ce que le bouche à oreille fonctionne, en fait le show est fini.
Et puis c'est sold out. Recommande...
Ouais, exactement. Les deux dernières représentations qui vont du coup être un vendredi et un samedi sont toujours sold out. Donc voilà, on recommande aux gens de réserver assez tôt pour ne pas être déçus.
Est-ce qu'il y a des matinées?
Non, on ne fait pas de matinée malheureusement. On fait uniquement, comme c'est une pièce, vous allez voir, qui est très intense. Il y a énormément il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'accessoires. Pour les acteurs, faire deux représentations le même jour, c'est très très dur. Et du coup, on voulait s'assurer que chaque représentation, ils soient au top de leur forme. Du coup, on s'est dit une représentation par jour, c'est plus sûr.
Marine, on profite de l'occasion pour peut-être parler de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a emmené au théâtre, ici et ailleurs?
Alors moi, je fais du théâtre depuis que j'ai environ 10 ans. Donc j'ai commencé en France. J'ai fait plein de représentations, 8 femmes, des adaptations d'Agatha Christie, du Sartre. Moi, j'ai toujours adoré le théâtre en tant qu'actrice. Et après, donc, je suis arrivée en Australie il y a 13 ans et j'ai découvert donc le petit théâtre il y a 9 ans par une amie avec qui je travaillais à La Durée, donc la French Connection au bout du monde. Et voilà, et depuis 9 ans, du coup, je fais partie du petit théâtre. J'ai commencé à mettre en scène il y a peut-être 4-5 ans. Et la beauté du petit théâtre, c'est que voilà, comme on est tous des amateurs, et en fait, tout le monde peut s'essayer à la comédie, à la mise en scène. On fait généralement 2 pièces par année, une pièce entière, où là, on fait vraiment un casting, on choisit les acteurs, etc. Et puis, une autre pièce où on prend plus tout le monde et c'est plus des petites scènes où chacun peut un peu s'essayer au théâtre. Et donc voilà, donc c'est la première fois que je mets en scène une pièce entière. Et je suis ravie que ce soit le prénom parce que c'est tellement une joie de pouvoir diriger les acteurs avec un texte qui est aussi magnifique.
Et vous pensez déjà à la prochaine pièce ?
Ah oui, on a déjà des plans pour la pièce qui sera en novembre, qui a priori sera une pièce qui s'appelle Les héros de mon enfance, qui est en fait une pièce qui réimagine les héros des contes de fées comme s'ils étaient contemporains. Donc voilà, ce sera sans doute en novembre, un peu plus tard.
Autre chose que vous aimeriez ajouter sur le petit théâtre de Sydney, peut-être une invitation aux gens qui adorent le théâtre et aimeraient rejoindre la troupe?
Oui, absolument. Si vous aimez le théâtre et que vous aimez le français, on est toujours à la recherche de membres, donc que ce soit sur scène, derrière la scène, on a aussi, on traduit toutes nos pièces puisqu'on a des sous-titres. Beaucoup de gens se demandent toujours comment le théâtre peut fonctionner avec des sous-titres. Je vous recommande de venir voir le prénom pour voir comment ça marche. Ne vous inquiétez pas si vous parlez pas français. Vous pouvez absolument venir voir nos pièces parce qu'on a des sous-titres pour toutes les pièces. Et donc voilà, vu qu'on a aussi ces sous-titres, il nous faut des gens qui aident à traduire, qui passent les sous-titres en live pendant la pièce. On a besoin de régisseurs, de gens qui s'occupent des costumes, des décors, etc. Donc si le théâtre vous a toujours intéressé et que vous avez un attrait particulier pour la culture française, n'hésitez pas à nous envoyer un email. On est toujours à la recherche de membres pour participer au prochain spectacle.
Et vous avez aussi un site internet?
Absolument, oui, le Petit Théâtre Sydney, où vous pouvez voir toutes les pièces qu'on a mis en scène ces 10 dernières années. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. On adore rencontrer de nouvelles personnes et ça met du sang neuf à l'association. Donc on est toujours ravis.
Merci à vous, Marine, d'être intervenue sur les ondes de Radio SBS en français et bonne continuation.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Mes yeux grandis découvrent le monde d'une façon naïve à faire confondre les démons de la nuit. Si tu veux, je pars avec toi pour faire un voyage.
Voilà la chanson avec laquelle se représente la Suisse au concours de l'Eurovision. Cette chanson qui s'appelle Voyage. La finale de l'Eurovision, c'est ce samedi. Mais en attendant, on reste dans notre programme en français. Rencontre avec Xavier Vigier, il est sommelier et venu manager chez Circle Winehouse.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Je suis dans nos studios de Melbourne avec Xavier Vigier, qui est sommelier et venu manager du restaurant Circle Winehouse à Melbourne. Bonjour Xavier et bienvenue en studio.
Bonjour Audrey, merci de m'avoir aujourd'hui.
Xavier, vous êtes né à Paris, mais vous avez étudié à Marseille, vous êtes aussi passé par Londres. Parlez-moi d'abord d'où vous venez et de votre parcours avant l'Australie.
Ah, tout à fait, Audrey, je suis né à Issy-les-Moulineaux, qui est une toute petite ville dans Paris. J'ai grandi à Boulogne-Billancourt jusqu'à mes 12 ans. Ensuite, nous avons voyagé et nous sommes partis avec ma famille du côté de Marseille, où j'ai fait mon lycée et puis toutes les petites bêtises qu'on fait quand on est jeune. Ensuite, je suis parti à Montpellier pour faire mon BTS en commerce international. J'avais comme but de travailler dans des grosses entreprises qui s'occupent de logistique internationale. Malheureusement, après mon BTS, je suis parti à Londres pendant le GFC pendant la crise économique et évidemment je n'ai trouvé aucun travail. Mon anglais était très basique et donc ça a été très difficile pour moi de trouver travail. Donc je me suis remis dans la restauration et j'ai rencontré énormément de belles personnes qui m'ont fait découvrir une partie de la restauration que je connaissais très peu. Une restauration et une hospitality qui était basée sur de la passion, sur des heures longues, sur la confrérie. Et j'ai beaucoup aimé ce côté très communauté. Et donc du coup, j'ai passé 3 ans et demi à Londres en travaillant dans des très beaux restaurants. J'ai beaucoup changé. Je voulais voir un petit peu des façons différentes de travailler. J'ai aussi beaucoup appris sur le côté service avec des professionnels de la restauration qui m'ont beaucoup appris. Et lorsque j'habitais à Londres, j'ai rencontré pas mal d'Australiens avec qui je vivais pendant un certain moment. Et ils m'ont fait découvrir un peu ce côté très relax du monde. Et ça m'a tiqué un petit peu. J'ai googlé Australie et j'ai vu qu'il y avait des visas qui étaient possibles d'obtenir. Donc du coup, je suis rentré en France pendant 6 mois et puis j'ai économisé pour partir en Australie. L'Australie depuis 2013. Maintenant, en janvier, je suis arrivé un jour où il faisait très très chaud. Je suis arrivé à Sydney et je me suis retrouvé en plein milieu de la ville et je me suis dit, oh my gosh, là, je suis dans une ville aussi occupée, aussi busy qu'en France, alors que dans mon imaginaire, j'arrivais sur une plage abandonnée avec des coquillages et crustacés. Et je me suis mis à travailler après 3 jours et puis tout le reste n'est qu'une histoire. Je suis en Australie depuis 2013, janvier, et j'ai rencontré ma femme avec qui on s'est marié et on est ensemble depuis. Et the rest is history.
C'est à Sydney que votre intérêt pour le vin s'est vraiment développé?
Tout à fait. Donc, pareillement, j'ai travaillé un peu dans la restauration quand je suis arrivé en Australie, en pensant que j'y serais que pour 1 an. Donc, je prenais les choses un petit peu légèrement. Puis, avec ma femme, on s'est rencontrés. Et finalement, la question s'est posée, où est-ce qu'on va? Ma femme est australienne, donc on s'est dit qu'on allait rester en Australie. Et j'ai travaillé pour un restaurant qui s'appelle Ormeggio at the Spit, qui est à Mossman, à Sydney. Et je travaillais pour un gentleman qui s'appelle Luc Collard, qui, à l'époque, était le chef sommelier et qui faisait des cours d'apprentissage sur le vin de WSET, donc Wine and Spirit Education Trust. Et j'ai commencé par là, j'ai commencé à vendre un peu du vin sur le floor. J'ai beaucoup appris sur le vin, j'ai fait mes études level 2, level 3 et puis finalement le diploma en l'espace de 3 ans. Donc je me suis vraiment mis dedans et ça m'a beaucoup plu. Il y avait une addition exceptionnelle sur le travail de tous les jours avec les clients et la relation qu'on crée avec les clients lorsque l'on travaille dans le vin est très différent que lorsque l'on est simple serveur. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé. J'ai fait passer mon diplôme en 2017. Et voilà, donc du coup, j'ai travaillé dans quelques restaurants. J'ai beaucoup appris. Je suis devenu chef sommelier à travailler pour des plus grosses équipes, des plus grosses cartes des vins et des revenus plus grands. J'ai beaucoup appris sur le management, sur le leadership. La restauration, c'est vraiment un monde très complexe avec beaucoup de complexité dans les relations et dans le management et ainsi que évidemment dans le côté financier d'un restaurant. Donc oui.
Puis de Sydney, vous êtes venu ici dans le Victoria, mais avant Melbourne sur la péninsule de Mornington. Pourquoi là-bas?
Alors, il faut remettre un peu les choses en contexte. Ça faisait 5 ans que j'habitais à Sydney. C'était en 2018. Et c'est vrai qu'après un certain nombre d'années dans une grande ville, on se pose la question, what's next? Est-ce qu'on va acheter une maison? Est-ce qu'on va dépenser 2 millions dans une maison? Est-ce qu'on va rester ici? Est-ce qu'on va faire des enfants? Est-ce qu'on va changer de carrière? Ou alors, est-ce qu'on va changer de scénario? Et c'est vrai que j'avais la possibilité d'être chef sommelier dans 2 établissements différents. Un qui était basé sur Sydney, l'autre qui était basé sur la Mornington Peninsula. Et c'est vrai que après avoir visité la région quelques fois, la décision a été assez rapide et assez naturelle finalement. à se dire quelle est la meilleure opportunité de travailler dans le vin, dans une région viticole, dans un restaurant qui est déjà très réputé pour avoir l'un des wine programmes les plus développés du pays. Donc c'est vrai que ça a été plus ou moins un yes, let's do it. Et c'est vrai qu'on est arrivé finalement au bon moment, puisque Covid a plus ou moins frappé en 2020, et on était au bon endroit au bon moment. En niveau de la carte des vins, du programme que j'ai réussi à établir avec mon équipe, ça a été vraiment très exceptionnel. On a voulu casser les murs et puis vraiment se reposer les vraies questions de la restauration et dans le monde du vin. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est là? Quel est le but de notre carte des vins? Quelle émotion, quel plaisir veut-on donner à notre clientèle? Le monde du vin est un peu fractionné. On a les vins moins chers qui sont faciles à avoir, et puis on a les vins qui sont beaucoup plus chers, des l'élite du monde viticole, qui est très dur à avoir, très dur à travailler avec, vu que c'est des vins que le monde entier veut, et la production est assez limitée, donc on reçoit une allocation par année. Et il est vrai que pendant des années, j'ai vu autour de moi des gens qui utilisaient un petit peu les allocations du vin d'une façon très commerciale pour attirer les personnes qui dépensent beaucoup d'argent. Et c'est vrai que c'est un modèle pour moi qui n'a pas tout à fait fonctionné, puisque toujours été dans l'idée que les producteurs de vin ont créé des vins pour que les gens puissent les boire. Et j'ai vraiment voulu casser cet élitisme vis-à-vis de ces vins. Et donc du coup, on a viré sur une carte des vins au vert qui était focusée très très lourdement sur ces vins là. Et donc du coup, c'est vrai que ça a fait un carton. On n'avait jamais vu des vins de Coche du Riz être servis au vert. On a rarement eu des châteaux Rayas au vert. En plus de ça, on avait quatre différents levels de wine pairing, les accords mets et vins. Donc du coup, on a vraiment poussé l'enveloppe sur tous les côtés. C'est vrai qu'on a été extrêmement successful à ce niveau-là. C'était magique. À un moment donné, le restaurant était plein à craquer, tout le monde buvait, et les gens disaient finalement quelqu'un qui ose faire des choses comme ça avec les vins. Et ça nous a pris une bonne année pour vraiment solidifier l'offre et pour que les gens puissent nous connaître. Mais quand on était à l'apogée de notre activité, ça a été un moment assez époustouflant de voir. Et évidemment, on a gagné la meilleure carte des vins en Australie. On a eu énormément de awards qui était assez gratifiant, non pas pour le côté personnel de la chose, mais aussi un petit coup de pouce pour la restauration, en se disant voilà, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à faire dans le monde du vin en Australie, en espérant que ça a inspiré une nouvelle génération de sommeliers à vraiment taper dedans et se dire voilà, il n'y a plus de limite. Ce qu'on fait, on veut le faire, et on le fait correctement pour justement redonner le goût de la restauration, redonner le goût des cartes de vin, redonner le goût des accords mets et vins aux clients, mais aussi aux professionnels de la restauration.
Et ça, c'était chez 10 Minutes by Tractor sur la Mornington Peninsula, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Et puis maintenant, depuis l'an passé, vous êtes chez Circle Wine House au centre-ville de Melbourne. Vous avez apporté, je crois, cette même approche du vin. Parlez-moi un peu de ce restaurant-là. Déjà, avec le nom, on imagine que le vin est important là-bas.
Tout à fait. Donc, encore dans le contexte, trois ans après avoir intégré l'équipe de 10 Minutes by Tractor, il y a eu un moment clé qui s'est passé dans ma carrière où j'ai finalement pu vendre Coche du Riz au vert. Coche du Riz, qui est un producteur exceptionnel sur l'appellation de Meursault, des vins qui se vendent à des milliers de dollars sur le marché secondaire. Donc du coup, le jour où on a réussi à faire ça au vert, pour moi, il y a eu un déclic en me disant peut-être que la mission est terminée ici. On a fait tout ce qu'on pouvait, on ne peut pas aller plus haut. L'idée, c'était, voilà, ça a marché. Il faut vraiment faire le même, mais dans la city. Et donc, du coup, en fait, j'ai décidé de passer à autre chose. Et j'ai rencontré une personne qui m'a intégré au business en 2022. Il nous a fallu quand même 2 ans et demi pour pouvoir ouvrir ce restaurant. Circle Wine House, c'est dans la city même, à Melbourne. C'est la réunion de gens qui aiment le vin, qui aiment la nourriture, mais qui veulent plus ou moins apprécier le côté culinaire du vin et de la nourriture sans pour autant passer 5 heures à table en ayant un set menu ou un format un peu plus fine dining, if that makes sense. Donc du coup, le but de Sacco, c'était de enable people to have access to this wine in a very casual, dans un univers qui est assez relax, qui est moins pourvu sur le côté fine dining, qui est beaucoup plus relax, qui est beaucoup plus allégé dans le sens du service, dans le sens du prix aussi. Donc Sacco, c'est vraiment l'endroit pour nous de développer l'amour du vin et de la nourriture sans pour autant demander aux gens de dépenser des 1000 et des 100 dans un menu ou dans les vins. Donc du coup, on a créé un programme sur la carte des vins qui est assez intéressant. On a 150 vins en verre avec 1500 références à la bouteille. Les vins en verre sont finalement décortiqués un petit peu comme si on faisait les vins à la bouteille. Tout est groupé par grape variety, par cépage, par style, par thème. Et donc du coup, ça permet aux clients de vraiment avoir ce côté un petit peu allégé d'une carte des vins et de pouvoir lire une histoire d'abord. Puis finalement, on a décidé d'offrir plusieurs différents mesurements de vin en verre. On donc fait des 75 ml, 150 ml. Pour les vins qui sont plus chers, on fait 50 ml, 100 ml, 150 ml, qui vraiment permet aussi de baisser le prix pour lequel on devrait payer ces vins. Donc ça, c'est sur côté carte des vins au verre. Après, sur les bouteilles, on a vraiment un gros focus sur la champagne. Il y a un shift qui s'est passé dans la région il y a 15-20 ans et qui est en train de grandir. C'est l'émergence de tout petits producteurs qui se mettent à faire leur propre vin. Et donc, ça nous donne l'opportunité pour nous sommeliers de vraiment travailler en profondeur avec une région qui est très complexe, point de vue climatologie, point de vue du terroir. Et c'est assez intéressant de pouvoir avoir différentes opportunités d'expliquer ce qu'est la champagne à notre clientèle australienne et française. On aura en moyenne 150 producteurs sur la carte des vins pour la champagne et pas de maison ou de grande marque. Donc vraiment un commitment sur le côté un peu plus paysan de la champagne.
On aime le vin, mais on aime aussi manger. Le menu, votre chef, Elias Salomonsen, est suédois, donc une touche scandinave. Qu'est-ce qu'on peut retrouver au menu?
Le menu que Elias a créé est très, très bien ajusté pour les vins. On y retrouve des arômes assez puissants, des plats avec pas mal de sauce, des combinaisons qui sont assez simples, mais qui marchent très bien avec un détail sur la technique qui est vraiment exceptionnelle. On y retrouve énormément de son héritage un peu suédois avec pas mal de sauces, de dill, il y a pas mal de pickled, il y a énormément de poissons aussi. Donc on y retrouve un petit peu ce côté viking. Il y a de la puissance dans ses plats, mais en même temps il y a ce côté très élégant. Il y a le côté très épuré d'une cuisine européenne que peu de chefs en Australie arrivent à gérer de la même manière dont Elias le fait. On arrive à trouver des produits qui sont normalement servis dans des grands restaurants. Je parle des wagyu, des pièces de viande qui sont normalement très chères. Le chef a réussi à trouver des cuts, des parties du bœuf qui sont un peu moins chères, qui nous permettent de pouvoir travailler avec sans demander aux clients de payer 3 à 4 chiffres pour la pièce.
Alors on peut aller vous visiter, Xavier, chez Circle Wine House au centre-ville de Melbourne sur Punch Lane. Merci beaucoup, Xavier, d'être venu nous visiter en studio.
Merci, Audrey.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
parlait de l'Eurovision avec la finale qui a lieu ce samedi. Et bien cette fois, c'était la chanson avec laquelle se représente la France, Louane, et la chanson Maman. En attendant cette finale de l'Eurovision, et bien on vous parle de Jean-Marc Probst. C'est un homme qui a deux passions, les voyages et le Petit Prince. Et depuis 1980, il collectionne les éditions de l'œuvre de Saint-Exupéry dans toutes les langues. Et depuis 2013, sa fondation contribue à de nouvelles publications à travers le monde. Nous l'avons rencontré, première partie de cette interview.
Vous écoutez Le Français sur Radio SPS.
Eh bien aujourd'hui, on va parler du Petit Prince avec Jean-Marc Probst. Alors Probst, déjà, c'est un nom suisse.
Tout à fait, c'est un nom suisse. Ça signifie en français le prévôt, c'est Probst. Voilà.
Probst, d'accord. On va parler du Petit Prince. Alors avant qu'on parle de vous, pourquoi Le Petit Prince est tellement une œuvre iconique encore de nos jours?
Alors ça, c'est une question importante que beaucoup de gens se posent. J'y ai apporté une réponse, peut-être pas définitive, mais en cinq points. Le premier point, c'est que Le Petit Prince est à même de donner du réconfort. Je suis très souvent en contact avec des gens qui ont aimé ce livre parce qu'ils l'ont lu dans des périodes de leur vie où ils étaient... ils avaient besoin de messages d'espoir suite à un divorce, la perte d'un être cher, enfin une situation difficile. Et le Petit Prince a cette vertu qu'il est capable de donner du réconfort. J'ai aussi identifié un second groupe de personnes qui aiment ce livre. C'est ceux qui sont en quête de choses plus spirituelles, qui se posent des questions qu'on se pose tous une fois ou l'autre. Pourquoi sommes-nous ici? Que se passe-t-il après les morts? C'est des questions qui en général sont traitées par les religions. Or, tout le monde ne se reconnaît pas dans les religions, et ceux qui cherchent des réponses ou des esquisses de réponses à ces questions existentielles et spirituelles les trouvent parfois dans Le Petit Prince. Puis après, j'ai identifié un groupe très important, et j'en fais partie, de personnes qui trouvent dans Le Petit Prince des références à des valeurs. On pense bien sûr à la responsabilité, à l'amitié dans le chapitre 21 de la rencontre avec le renard, mais aussi le respect, la générosité, la confiance, le sens du devoir. Toutes ces valeurs qui sont revenues à la surface de la société, je dirais ces dernières décennies. Après la Seconde Guerre mondiale, on va vers plus de bien, plus de tout. Et puis depuis 2-3 décennies, on essaye de revenir à des choses qui sont plutôt orientées vers le mieux et vers les valeurs. Le quatrième point, c'est l'intemporalité. C'est un livre qu'on peut lire à tout âge. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fort. Le style de Saint-Exupéry le rend accessible. Et puis, puisque je parle de style, c'est peut-être le dernier point, c'est la qualité littéraire de ce texte. C'est un texte qui est plaisant à lire. Le manuscrit de Saint-Exupéry est beaucoup travaillé, ce qui fait qu'il n'a laissé que l'essentiel dans son livre.
Ah oui, et le reste, c'est de l'imagination totale. On vous parle aujourd'hui, Monsieur Probst, parce que vous êtes le collectionneur ultime du Petit Prince. J'ai cru comprendre que... je vais vous laisser l'honneur de me dire à combien d'éditions du Petit Prince vous avez avec vous.
Alors aujourd'hui, on compte 540 traductions, et ma collection, qui compte plus de 9000 ouvrages et documents, contient entre autres 6700 éditions du Petit Prince, des éditions qui contiennent le texte intégral dans toutes ces différentes langues. Alors, quand je dis différentes éditions, il y a des éditions en braille, il y a des éditions donc pour les malvoyants, mais il y a des éditions d'art, il y a des éditions avec des dessins d'artistes, enfin des éditions pop-up qui sont ces livres qui explose presque quand on les ouvre. Il y a des éditions multilingues pour permettre aux gens de passer d'une langue à l'autre. Très récemment, après le début du conflit en Ukraine, sont apparues des éditions de Petit Prince en ukrainien allemand, ukrainien français, ukrainien italien, bien sûr pour les migrants d'Ukraine, etc. Donc de très nombreuses éditions constituent effectivement cette collection qui est la plus grande du monde, et de très nombreux documents que j'appelle autour du Petit Prince, puisque j'ai dans ma collection plus de 450 livres qui auraient été écrits sur le Petit Prince lui-même. Donc des gens qui disent, mais je vais expliquer aux autres de quoi il retourne, ce que j'ai ressenti, etc.
Comment on commence une collection comme ça? Parce qu'on a son premier ouvrage du Petit Prince. À partir de combien on dit que c'est une collection? 2, 5, 10? Là, vous êtes à plus de 6000. Comment on se dit au début, OK, je suis parti dans le business, entre guillemets, de la collection de Petit Prince?
Alors, pour ce qui me concerne, ça s'est fait bien sûr en crescendo. Mon histoire personnelle avec le Petit Prince, c'est d'abord celle de la lecture de ce livre. J'avais 15 ans, j'étais à l'internat, un professeur m'a donné ce livre, m'a dit « lis-le, ça va te plaire ». Effectivement, ça a été un coup de foudre. Puis je l'ai offert autour de moi, et puis j'ai eu la possibilité, après mes études, à l'âge de 25 ans, de faire un tour du monde. Et là, j'ai découvert le Petit Prince que j'avais aimé dans mon adolescence dans nombreuses langues. Et c'est à cette occasion, à l'occasion de ce périple autour du monde que j'ai rapporté, moi justement, comme vous dites, Christophe, une vingtaine d'exemplaires dans des langues différentes, le japonais, l'arabe, etc. Et puis après, j'ai des amis qui ont participé à cette petite collection. Et je dois dire qu'il y a une très longue pause parce qu'on est pris par les choses de la vie, son travail, sa famille, pour ce qui me concerne aussi des activités dans le monde politique. Et puis, bien sûr, il y a eu la magie d'Internet qui m'a permis d'accéder à des amis collectionneurs autour du monde, à des sites Internet de boutiques, de librairies, etc., etc. Et là, ça a pris vraiment une ascension faramineuse. En quelques années, la collection a grandi. Aujourd'hui, je suis en contact avec une centaine de passionnés autour du monde, et on échange et on essaye de maintenir cette collection la plus complète possible. Donc, c'est des gens qui participent à ce que ma collection soit le plus complète possible.
C'est génial d'avoir des gens qui vous aident aussi, parce que tout seul, ça commence peut-être à peser un peu lourd. Mais est-ce qu'il y a un ouvrage aujourd'hui ultime qui vous manque, que vous gardez au coin de l'œil? Est-ce qu'il y a aussi ça dans la collection du Petit Prince? Il y a cet ouvrage ultime qu'il vous faut absolument?
Alors, il me le faut pas absolument, j'en fais pas une fixation, mais il existe. C'est une édition, la première en Dari afghan. Le traducteur qui avait été aussi l'éditeur avait fait un tirage de quelques centaines de livres, et puis il avait laissé ses ouvrages à Kaboul dans sa maison. Il en avait pris 5 ou 6, je ne sais pas précisément, avec lui pour un voyage en Europe, et quand il est revenu à Kaboul, sa maison avait été détruite dans un bombardement, un incendie. Donc effectivement, ce livre est très rare. Je connais en tout cas 2 ou 3 exemplaires, je sais où ils sont. J'en fais pas une fixation, mais c'est un livre qui manque à ma collection.
D'accord. Alors, on va s'intéresser un petit peu plus à l'ouvrage et à l'homme derrière le Petit Prince aussi, parce que vous êtes la personne qui peut nous en parler le plus. On est à les 80 ans anniversaire donc du Petit Prince, octante, hein, comme on dit, je crois, chez vous. Mais cet anniversaire, il est important. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'œuvre de Saint-Exupéry soit encore vraiment au goût du jour?
Alors, il y a un travail extraordinaire qui est fait par la succession Saint-Exupéry, qui n'est pas une succession directe, puisque Saint-Exupéry, qui s'était marié avec Consuelo Succin, une artiste salvadorienne, Saint-Exupéry avait 31 ans déjà quand il se marie. Ils n'ont pas eu d'enfant. Sa sœur aînée n'a pas d'enfant. Son frère décède dans des conditions tragiques, quelque chose qui marque Saint-Exupéry pour sa vie, et on le ressent dans ses écrits, hein, puisque Saint-Exupéry à 17 ans quand son jeune frère, qui en a 15, décède. Et puis, il a encore deux sœurs, trois en tout, une autre qui n'a pas d'enfant, et puis une sœur cadette qui épouse un daguet du village d'Aguet au sud de la France, et ils ont quatre enfants, dont vit encore, et il a été le neveu de Saint-Ex. Donc, il a une succession, dont Olivier Daguet, qui est le président de la Fondation Saint-Exupéry pour la jeunesse, et de la succession Saint-Exupéry. Et ils font un travail autour de la mémoire de Saint-Exupéry, pilote, écrivain, vraiment un très grand travail de mémoire, au travers d'expositions, au travers de nombreux événements. Vous savez que le Petit Prince a été réalisé en bande dessinée par Sfar, il a été mis sur les planches pour la danse, pour l'opéra, pour la comédie musicale, pour le théâtre. Il y a des pièces autour de Saint-Exupéry, de sa vie, mais aussi du Petit Prince. Chaque année, il y en a, je dirais, plusieurs dizaines autour du monde qui voient le jour.
Oui, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça m'emmène sur un des points, c'est que Le Petit Prince, c'est quelque chose qui est dans le domaine public dans un peu partout. Je crois que, sauf dans trois pays, la France, les États-Unis et l'Espagne, si je me trompe pas. Mais en France, c'est intéressant parce que la période aurait dû déjà être passée, mais je crois que c'est jusqu'en 2032 ou 2035. Ça a été étendu puisqu'il est mort pour la France en 1944, Antoine de Saint-Exupéry.
Tout à fait, Saint-Exupéry meurt sous les drapeaux et les écrivains qui ont malheur de mourir en service pour la France, eh bien leurs droits sont prolongés, ce qui est le cas de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry disparaît le 31 juillet 44, abattu par un chasseur allemand dans son Lightning P-38, qui est à cette époque un des chasseurs les plus modernes qui soit. Il a fait une mission de reconnaissance sur la France depuis la Corse, et le 31 juillet 1944, il ne se repose plus à la base, et c'est une disparition qui reste mystérieuse pendant 64 ans, jusqu'à ce que une découverte complètement improbable se fasse. Un pêcheur français découvre dans ses filets la gourmette de Saint-Exupéry, à un endroit où vraiment on ne pensait pas qu'il ait pu tomber. Donc les recherches reprennent, on finit par retrouver son avion, une partie de son avion bien sûr, et le mystère est dévoilé petit à petit. Des journalistes d'investigation vont à la recherche de ce qui était l'objet d'un livre qui s'intitule « Le dernier mystère » et qui amène à retrouver Horst Ripper, le pilote du chasseur allemand qui, ce 31 juillet 44, avait abattu Saint-Ex. Il rencontre ces journalistes, il leur dit qu'il n'a plus que quelques mois à vivre et il accepte de livrer ses secrets à la condition que tout ça ne soit publié qu'après sa mort, ce que ces journalistes bien sûr acceptent et ce qui permet de mettre un point final au mystère de la disparition de Saint-Exupéry.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Des grands yeux qui pétillent sur un regard de braise, une petite moustache fine, un large sombrero, une allure fredonne.
C'était Dorothée Rascle qui interprète Tango Loco. C'est la fin de cette émission, messieurs, dames. Merci à tous de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est demain, même fréquence, même heure. Je vous souhaite de passer un très beau samedi après-midi.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.